Bonsoir. Ouverture ce mardi à Kinshasa des travaux du comité préparatoire du dialogue politique en RDC. Dans son discours, le facilitateur Edem Kodjo a affirmé que ce dialogue va se dérouler dans le respect de la constitution congolaise et conformément à la résolution 2277 du Conseil de sécurité des Nations Unies. Ces travaux démarrent sur fond de l'appel à la journée ville morte décrétée par le Rassemblement, une des plateformes de l'opposition. Quelle analyse faire de cette situation? Nous en parlons avec Dieudonné Moinze, député national honoraire, cadre du PPRD et communicateur de la majorité présidentielle. Bonsoir, honorable Dieudonné Moinze.
Bonsoir, du matin.
Valentin Moubaké, cadre de l'UDPS et conseiller politique d'Étienne Tshisekedi. Bonsoir, monsieur Valentin Moubaké.
Bonsoir.
Et professeur Bob Kabamba, professeur à l'Université de Liège en Belgique et coordonnateur de la cellule d'appui politologique en Afrique centrale. Bonsoir, professeur Bob Kabamba.
Bonsoir, du matin.
Bienvenue à tous dans cette émission.
Pour participer à l'émission, appelez le 081 051 66 78 ou contactez-nous par SMS 081 051 57 78 ou par mail dec@radiocapi.net.
Les travaux du comité préparatoire du dialogue politique intercongolais ont commencé ce mardi à Kinshasa pour 5 jours. Le train du dialogue a bel et bien démarré selon le facilitateur Edem Kodjo qui a inauguré ces travaux. En présence des mandataires de l'opposition politique, de la majorité présidentielle, de la société civile ainsi que du groupe de soutien aux facilitateurs, Kodjo a prévenu les Congolais de la crise politique qui guette le pays et les a invités à réfléchir autour du thème « L'organisation pacifique des élections crédibles et transparentes ». Le facilitateur a ainsi tendu sa main à l'autre frange de l'opposition afin de rejoindre le travail du dialogue qui a démarré. Edem Kodjo est au micro de Jeff Ngoy.
Mais comment ne pas souligner pour le regretter que la famille congolaise ne soit pas entièrement réunie dans la maison commune. Notre patrimoine à tous, sachant que les portes largement ouvertes de notre enceinte sont prêtes à accueillir à tout moment nos frères encore absents à qui nous tendons les pommes ouvertes de la fraternité. Pour ce processus de dialogue qui se tiendra conformément à la constitution congolaise et à la résolution 2277 du Conseil de sécurité des Nations Unies, le comité préparatoire a pour objectif principal de préparer l'aspect normatif, matériel, logistique du dialogue national.
Les Congolais sont donc appelés à résoudre la crise due au manque des élections en RDC. Par ailleurs, l'absence d'une autre frange de l'opposition à ses assises a suscité des réactions diverses dans la salle. Des réactions allant dans le sens de plaider pour un dialogue inclusif et pour la représentativité de la société civile, comme nous l'explique Jeff Ngoy qui était sur place.
Monsieur Joseph Zagabé, je suis la société civile par excellence. Aujourd'hui, on ne peut pas comprendre que Edem Kodjo puisse se permettre de prendre la liste qui n'est pas celle connue par notre président. Nous allons.
L'incident vient de la société civile. Elle conteste sa liste sur laquelle on trouverait des membres de cabinet politique. Elle demande une motion qui ne lui est pas accordée. Mandataire du RCD Goma, Azarias Rubero en appelle à un dialogue inclusif élargi à toute l'opposition.
L'absence d'une partie de l'opposition fait que le dialogue ne soit pas suffisamment inclusif. Il est vrai que ce n'est pas l'unanimité qui est derrière la notion de l'inclusivité, mais il faut que toutes les parties soient suffisamment représentatives.
Il faut saisir la main tendue du facilitateur pour qui les portes du dialogue restent ouvertes. Enchaîne le ministre Alexis Thambwe Wamba.
On y est, enfin, c'est bon, on va démarrer les travaux. Je pense que le facilitateur l'a dit, la porte reste ouverte. Ceux qui veulent rejoindre, à mon avis, peuvent venir à tout moment, ça c'est clair.
Après un bref huis clos, les participants reçoivent chacun une ébauche de la feuille de route préparée par le groupe du travail. Ils se réunissent à nouveau jeudi pour en débattre avant adoption.
L'appel à une journée ville morte ce mardi par une frange de l'opposition congolaise a eu des effets sur le déroulement de la journée à Kinshasa. La quasi-totalité des magasins sont restés fermés, les grands marchés n'ont pas connu l'engouement habituel. Les tenanciers des magasins, eux, dénoncent un manque à gagner dans leurs affaires. On écoute Jean-Désiré Kanyama qui a fait la ronde de la ville.
Eh bien, cet avant-midi, nous avons visité notamment les bureaux des ministères de la fonction publique, des affaires étrangères, ainsi que du travail de la prévoyance sociale. Les quelques agents trouvés sur ces lieux nous ont signalé qu'ils y étaient pour signer la liste de présence. Au ministère de la Justice, par contre, le travail s'est déroulé normalement. Côté entreprises étatiques et para-étatiques, notamment à l'OCC, à l'OGEFREM et à la SONAS, la situation était plus ou moins normale, certains bureaux étant fermés et d'autres ouverts. Cependant, les marchés ont été plus affectés, de même que les commerces et les transports. Au marché centrale communément appelée Zando, presque tous les magasins étaient fermés. La situation était pareille au niveau du rond-point Forestcom jusqu'à peu. Cependant, on pouvait apercevoir des vendeurs à la sauvette au marché central et encore un peu plus nombreux au marché Gambela, où les magasins des électroménagers et autres divers étaient ouverts. Mais le constat est qu'il y a eu une faible fréquentation des clients, d'où un manque à gagner dénoncé par les commerçants. Pour ce qui est du transport en commun, les grandes artères de la capitale ont revêtu leur robe de dimanche, c'est-à-dire pas une grande affluence des véhicules de transport en commun et même des particuliers observés à travers la ville.
Dans les autres provinces du pays, la population congolaise a répondu de manière diverse à cet appel. Si au centre du pays, quelques actes pour paralyser la ville de Mbujimayi ont été signalés, il n'en a pas été le cas dans la majeure partie de l'est du pays, à l'ouest comme Marikwit. Parlant du bilan de cette journée sur toute l'étendue du territoire national, la police nationale congolaise indique qu'un policier et un chauffeur ont été blessés et admis dans un centre hospitalier pour des soins. La PNC signale aussi quelques barricades observées, notamment dans l'ex-Katanga et dans la capitale, mais qui ont été vite démantelées par les services de l'ordre. Dans l'ensemble, la police affirme que la journée s'est plutôt bien passée. Dieudonné Mounzé, je rappelle que vous êtes député national honoraire et cadre du PPRD et communicateur de la majorité présidentielle. Les travaux du comité préparatoire du dialogue ont débuté aujourd'hui. Et quelles sont vos premières impressions par rapport à cette première journée?
Écoutez, monsieur Guimaté, nous avons tous assisté à la cérémonie de lancement de travaux du comité préparatoire. Et aujourd'hui, et nous pensons que ces travaux vont pouvoir se dérouler convenablement. Et si vous me demandez mon impression, c'est que je constate simplement que les Congolaises et les Congolais acceptent de se parler, nonobstant l'absence de quelques personnalités, mais que l'on voudrait bien voir dans ces travaux ou voir les représentants dans ces débuts de travaux. Mais que voulez-vous, je crois que vous l'avez entendu lorsque vous avez fait passer les éléments, l'inclusivité n'est pas nécessairement une obligation quelconque qui est donnée à chaque Congolais nécessairement de participer aux travaux, mais ce n'est pas aussi une unanimité. Donc, mon impression est bonne de constater que les Congolais de tous bords, société civile, opposition politique ou majorité acceptent de se parler, en dépit des petits incidents tels que je les ai suivis, les jeunes d'un côté ont réclamé, la société civile également, bon c'est un problème de coordination, on ne sait pas qui est véritablement président, qui est habilité à déposer la liste et qui ne l'est pas, donc ça pose problème. Mais le constat que j'ai fait en dehors de ça, c'est que j'aurais souhaité réellement que certaines figures de l'opposition soient également présentes ou soient représentées au début de ces travaux. Mais malheureusement, c'est notamment le cas de l'UDPS. C'est vrai que j'ai vu dans la salle les représentants du groupe parlementaire UDPS et alliés, mais j'aurais souhaité que je puisse aussi voir ceux qui sont en dehors du Parlement, c'est-à-dire ce que nous appelons l'opposition extra-parlementaire.
Dans son discours, M. Edem Kodjo affirme que ce dialogue va se dérouler dans le respect de la Constitution congolaise et conformément à la résolution 2277 du Conseil de sécurité des Nations Unies. Honorable, comment vous comprenez ces propos de M. Edem Kodjo?
Non, ce sont les propos que nous entendons tous les jours, nous-mêmes nous les prononçons tous les jours, mais il y a toujours des sceptiques qui ne veulent pas les entendre. Nous avons toujours dit et crié en longueur de journée, tout ce temps,
mais même à tous ceux qui résistent encore. C'est quoi les fonds de cette pensée?
Je vais expliquer la pensée. Nous l'avons toujours dit tous les jours que le dialogue projeté par le président Joseph Kabila, que nous voulons politique nationale inclusive, sera un dialogue qui ne peut pas aller au-delà des prescrits de la Constitution. Nous l'avons toujours dit. Et ça sera ce dialogue qui va aller dans le sens de la résolution 2277. Et nous l'avons toujours dit. Bon, alors, vous me demandez la pensée. La pensée, c'est quoi? Quand, lorsque nous disons que nous allons respecter la Constitution, ça veut dire que pendant tous ces travaux, nous serons conformes à l'esprit, à la lettre de la Constitution. Nous le disons tous les jours. Et nous disons tous les jours qu'en dehors de cette volonté des Congolais et des Congolais de se retrouver, nous allons rester dans cette résolution de la communauté internationale ou de l'Organisation des Nations Unies qui nous recommande de pouvoir tenir le dialogue. Je crois que vous lisez les points de point 7 jusqu'au point 10 de cette résolution. Il est clairement recommandé aux Congolais de se parler, de pouvoir parler de ce qui concerne le processus électoral, c'est-à-dire baliser le chemin pour les élections, améliorer la gouvernance électorale pour que nous puissions réellement avoir des élections acceptables par tous et qui nous mettent d'accord de manière à ce que les conflits post-électoraux soient le plus possible minimisés. Donc nous sommes dans les deux textes, c'est-à-dire d'une part dans la Constitution, même si le dialogue doit se tenir, mais nous restons également dans la résolution 2277. Mais nous disons simplement à ceux qui parlent des dates que la Constitution ne parle pas de manière expresse des dates. La Constitution parle des périodes. Et nous sommes dans une situation où ces périodes risqueraient de ne pas être respectées. C'est pour cela que nous parlons du dialogue, puisque tous, même ceux qui n'ont pas été là aujourd'hui, restent attachés au dialogue. C'est ce qui est important. Même s'ils n'ont pas été dans la salle, même si je ne les vois pas être représentés pendant ce temps, dans un premier temps, au comité préparatoire, mais ils restent attachés au dialogue, notamment le président de l'UDPS. Il a dit clairement à maintes reprises que le dialogue, c'est la voie royale pour régler nos conflits. Donc nous restons dans la logique de la résolution 2277 et nous restons dans la logique de la Constitution pour que nous puissions baliser la voie de l'avenir.
Ces travaux se déroulent ou débutent dans un contexte des journées ville morte décrétées par le Rassemblement. Honorable Dieudonné Mwenze, vous ne voyez pas dans ces boycotts de l'opposition un échec de la facilitation qui n'a pas su convaincre cette partie de l'opposition?
Mais aussi
les refus, n'est-ce pas, d'une partie de l'opposition, de la population, de pouvoir adhérer à l'idée même du dialogue tel que l'a souhaité et le souhaite le chef de l'État.
Non, je voudrais dire quelque chose par rapport à cette journée que l'on a appelée ville morte. Vous savez, le début des travaux du comité préparatoire a été annoncé depuis la semaine passée. Bon, il y a des gens qui ont choisi la journée de mardi, coïncidant avec le jour de lancement de ces travaux du comité préparatoire, pour décréter ce qu'ils appellent la ville morte. Mais la vérité, c'est quoi, monsieur Guimaté? Nous avons vécu ça. C'est que on utilise les mêmes méthodes, les méthodes dépassées, les méthodes surannées. Ce qu'il y a simplement dans le chef des Quinoises et des Quinois, c'est qu'ils ont été traumatisés aujourd'hui. La journée a été comme toute autre journée, mais avec un seul incident, c'est-à-dire le fait que la circulation n'a pas été bonne. Vous comprenez que les gens ne peuvent pas être à temps au service, les autres carrément n'ont pas été au service.
Merci.
Vous comprenez également que les marchés comme les magasins ne pouvaient pas ouvrir convenablement à cause du traumatisme et des menaces, puisque ceux qui ont décrété ou qui ont lancé, projeté cette ville morte se sont mis très tôt matin avec les jeunes gens pour pouvoir lancer des menaces.
Merci à l'envoi de Valentin Mouaké, cadre de l'IDPS et conseiller politique de Jean Tshisekedi. En dépit du fait que vous avez boycotté les travaux du comité préparatoire, la classe politique ainsi que les forces vives de la nation ont répondu à l'appel du facilitateur. N'est-ce pas un échec de l'UDPS ou du Rassemblement?
Mais d'abord, si le pouvoir actuel, comme toujours, dans le mensonge qui le caractérise, veut refaire une concertation politique ou nationale bis, libre à lui de le faire. Nous ne sommes pas dans un dialogue pour permettre à M. Kabila de glisser, d'avoir un troisième mandat. Quand j'entends ici que nous serons dans les prescrits de la Constitution et que la Constitution ne précise pas de date, mais enfin, nous sommes où là? Est-ce que cette Constitution est connue de la même manière que nous? Je rappelle au pépérdiste qui est à côté de moi ici que cette Constitution...
Monsieur Dédonné Moisé,
que cette Constitution fixe des dates. Et l'une d'elles va intervenir bientôt le 19 septembre. C'est la date.
Il n'y a pas la date du 19 septembre.
Honorable Dieu.
C'est la date à laquelle le scrutin présidentiel doit être convoqué. 90 jours avant la fin du mandat du président en exercice. Il a prêté serment, il me semble, le 20 décembre 2011. Ça veut dire que la veille, le 19 décembre à venir, son mandat est terminé. C'est une date, celle-là. Ça s'appelle une date. Alors, mais je voudrais préciser ceci. Tout à l'heure, vous avez dit, lui, je crois, il a dit, il salue la présence des députés UDPS alliés. L'UDPS n'a pas de députés à l'Assemblée nationale. Nous l'avons toujours dit, et même ici, sur ce plateau, nous le répétons. Ceux qui sont allés, ceux qui avaient été élus sur le label de l'UDPS, député national entre guillemets, et qui sont allés dans ce forum abusivement appelé Assemblée nationale, ont été frappés d'auto-exclusion par le parti. Cette décision-là, il faut que M. Mwenze et ses amis de PPRD, qui veulent s'accrocher là-dessus, puissent se la remémorer. Ainsi donc, l'UDPS n'est pas là-dedans, et l'UDPS ne se fait pas du mauvais sang pour cela. Pourquoi ? Parce que nous avons posé des conditions, pour notre participation dans le cadre de notre appartenance à un groupement politique qu'on appelle le Rassemblement, que vous connaissez, a vu le jour à Genève. Nous avons posé des conditions pour pouvoir participer au dialogue. Ces conditions-là, je rappelle, une première condition, la plus importante, c'est la libération des prisonniers politiques et des prisonniers d'opinion. Cela n'a pas encore été fait. Deuxièmement, nous avons constaté que le facilitateur est un kabyliste, parce qu'il faut le dire. Donc il ne peut pas, il ne jouit pas de notre confiance. Et dès lors qu'il ne jouit pas de notre confiance, vous voyez l'entêtement avec lequel M. Kodjo est en train de s'imposer contre la volonté des Congolais. Ça veut dire, M. Kodjo, pour ceux qui ne le savaient pas encore, qui voulaient des preuves, a une mission. Et il devient, M. Kodjo, incapable de se départir de cette mission-là. M. Kodjo, sous d'autres cieux, en tout cas, devait se déporter. Dès lors qu'une partie du groupe que vous êtes censé concilier avec un autre vous retire sa confiance, le moindre comportement élémentaire, j'ajoute, c'est de vous déporter. Mais si vous persistez dans le dossier, c'est que vous y avez un intérêt personnel. Voilà. Et alors, c'est comment, ça l'entêtement de Kodjo.
Mais Tombaye, comment vous expliquez le fait que l'opposition, notamment le rassemblement, récuse Kodjo, toute la communauté internationale semble le soutenir.
Mais le soutenir, c'est une façon de parler par vous. Mais ce Kodjo a été désigné par l'Union africaine. Ne l'oubliez pas. Et il est malaisé à l'Union européenne, par exemple, à l'OIF, par exemple, qui sont aussi des associations à caractère international, de regroupements à caractère international, de casser une décision de l'Union africaine. Ce n'est que ça. Et c'est pour cela, d'ailleurs, qu'ils ont dit, eh bien, nous mettons à sa disposition un panel de soutien. Ça veut dire que ce panel-là doit travailler avec Kodjo. Et vous voyez comment M. Kodjo se fout pas mal de ce panel. On dit ici que l'ouverture de la date a été fixée la semaine prochaine. C'est faux. C'est quand M. Tambe Mwamba, vendredi dernier, faisait son cinéma de libération des prisonniers politiques. Et M. Kodjo invitait là-bas comme le directeur de l'ANR ou les autres responsables des institutions congolaises, s'est permis de féliciter le ministre, de féliciter M. Kabila. Et c'est à ce moment-là que le lendemain, le rassemblement a décrété la ville morte. Mardi.
Le ministre de la Justice a affirmé au sujet de la libération des prisonniers politiques qu'une commission travaille à cet effet. Et pourquoi ne pas accepter, n'est-ce pas, de participer à ces travaux, une façon pour vous de tester la bonne foi du pouvoir?
Non, nous connaissons ce pouvoir, mais ce qui m'intéresse dans votre question, c'est ce que le ministre de la Justice avait dit ce jour-là. Il a dit libérer les violeurs ou libérer les escrocs, ça choquait l'opinion. Vous rappelez ce qu'il avait dit? Moi, je lui rappelle tout simplement que M. Tshebeya Floribert, paix à son âme, qui a été assassiné par ce pouvoir, eh bien, on a trouvé dans sa voiture une mise en scène avec des postiches, des mèches de femmes et même des condoms, comme pour dire cette mort-là, c'est une mort liée à un crime passionnel. Comment pouvez-vous accepter que ces gens-là condamnent quelqu'un, Diomi Dogal en l'occurrence, pour viol, dès lors qu'ils se sont illustrés par le passé par des montages honteux de ce genre-là? Et j'ajoute, je m'excuse, ce qui est choquant, pour les Congolais, c'est de voir quelqu'un, il n'y a pas longtemps, dans une rébellion, s'est vanté dans les ondes de la Radio France Internationale, en disant qu'il avait ordonné qu'on abatte un avion de ligne à bord duquel il y avait une centaine de personnes. Et c'est celui-là qui est ministre de la Justice aujourd'hui. Voilà ce qui est choquant. Après avoir posé un acte terroriste par excellence. Voilà ce qui est choquant.
Merci, professeur Bob Kabamba, professeur à l'Université de Liège en Belgique et coordonnateur de la cellule d'appui politologique en Afrique centrale. L'ouverture des travaux du comité préparatoire du dialogue politique sur fond de l'appel de la journée, donc plutôt à la journée ville morte. Votre analyse par rapport à cette situation?
Merci pour l'invitation et pour la question. Donc, je crois qu'on se retrouve toujours au même point depuis le début par rapport au dialogue et qui doit être mis en place. Dès le départ, nous savions tous qu'il y avait deux camps. Il y avait un qui était autour de la majorité, il y avait l'autre camp qui est maintenant rassemblé dans le groupement qu'on appelle maintenant le rassemblement. Et c'est deux camps que Edem Kodjo a essayé, par tous les moyens, a essayé de réconcilier les points de vue pour pouvoir arriver à avoir ce comité préparatoire. Mais malheureusement, il faut bien se rendre compte qu'il y a un gros problème au niveau des enjeux, au niveau même des objectifs des uns et des autres. Le rassemblement, pour ma part, ce que le rassemblement a fait, c'est d'arriver à ce qu'au 20 décembre, c'est que le président Kabila ne soit plus président et que l'on ouvre une nouvelle période et que cette période soit d'autres qui doivent organiser, mettre en place le contexte pour organiser de nouvelles élections. Du côté de la majorité, eux, ils disent maintenant il faut qu'il y ait un dialogue et de ce dialogue-là va découler bien sûr un calendrier électoral. Alors sachant très bien que par rapport au calendrier électoral et par rapport aux élections, qu'on a dû refaire tout le fichier électoral. Et pour refaire le fichier électoral, cela prendra plusieurs mois, comme l'a dit M. Nanga, cela prendra 16 mois et un jour. Donc on se rend bien compte que nous sommes au-delà de 2016 et même au-delà de 2017. Et donc, entre ces deux positions, le facilitateur, de mon point de vue, n'arrive pas à essayer d'arriver à avoir un dénominateur commun. Et donc je doute fort que même les travaux du comité préparatoire, si les deux positions restent sur le même point, on risque de ne pas avoir un minimum de consensus pour qu'on puisse avoir quelque chose qui permette à ce que l'on puisse sortir de l'impasse dans laquelle on se retrouve. Même l'implication du groupe de soutien, même l'implication des uns et des autres, je pense que nous sommes très très loin de l'arriver à un point qui puisse arriver à satisfaire tout le monde. Alors ce qui va découler malheureusement de ce qui va suivre, c'est-à-dire que nous risquons maintenant d'avoir d'une part soit le rassemblement qui va vouloir chaque fois aller de pression en pression en demandant comme aujourd'hui les villes mortes pour essayer de faire pression sur la majorité pour arriver à obtenir ce qu'ils veulent. Et de l'autre côté, certainement qu'au niveau de la majorité, il va y avoir des résistances pour essayer de ne pas entrer dans le même schéma que ce que veut le rassemblement. Et donc, de mon point de vue, s'il n'y a pas d'évolution dans les différents points, je crois bien qu'on risque de ne pas sortir de l'auberge avec un consensus. Par ailleurs aussi, il faut souligner que la question des dates, parce qu'on a parlé tout à l'heure de la question des dates, je dois vous dire qu'il y a une décision de la CENI. En fait, il y a un calendrier électoral de la CENI qui a été publié et jusqu'à preuve du contraire, ce calendrier est toujours valable du fait que la CENI, jusqu'à présent, n'a jamais modifié ce calendrier, n'a pas dit que ce calendrier était inadéquat et ce calendrier fixe des dates, dont notamment le 19 septembre, la convocation de l'électorat et le 20 au mois de novembre, les élections et la prestation du serment ainsi que l'installation du nouveau président qui arriverait le 20 décembre. Et donc ce calendrier existe, il y a des dates, mais ce calendrier existe et qui n'a pas encore été modifié. D'autre part aussi, je voudrais faire souligner que lorsque l'on parle de l'inclusivité, je pense que tous les textes, aussi bien les accords d'Addis Abeba que la résolution des Nations Unies, sont clairs là-dessus et qui insistent justement sur la question de l'inclusivité. Quand on dit inclusivité, bien sûr que l'on voit, ça veut dire que toutes les parties, c'est non seulement ceux qui sont déjà présents aujourd'hui au comité préparatoire, mais aussi ceux qui sont dans les rassemblements, ainsi que le MNC, ainsi que d'autres mouvements politiques qui s'opposent à ce processus de comité préparatoire. Donc voilà un peu en résumé ce que l'on peut dire pour l'instant et que l'on sent très bien, c'est de mon point de vue, que cela ne va pas aboutir à grand chose.
Oui, professeur, donc vous dites que les positions des uns et des autres reflètent des agendas cachés. Et cela voudrait dire que les préalables majeurs, au-delà même des préalables que pose l'opposition, le préalable majeur serait que chaque camp puisse se départir, n'est-ce pas, de son agenda caché.
Ben oui, mais ça ne sera pas évident. Ça ne sera pas évident pour la bonne et simple raison que, justement, c'est par rapport aux objectifs que les uns et les autres ont. Ça veut dire que ce sont des positions qui sont inconciliables. Et c'est ça, en fait, le problème. Même si on essaye de dire, ben, OK, on se départit des agendas cachés, mais les agendas cachés, ce sont les objectifs. Et ils veulent arriver à cet objectif-là. Le Rassemblement, le MNC, etc., ne veulent pas que Kabila soit président le 20 décembre et que ce soit eux, dans un autre système, qui prennent le relais pour pouvoir organiser des élections. De l'autre côté, on dit, ben non, nous sommes dans un cadre légal, avec une constitution et avec des résolutions, nous devons rester dans ce cadre légal, et il y a aussi l'arrêt de la Cour constitutionnelle qui aboutit en disant qu'il y a ce cadre légal-là dans lequel on doit fonctionner. Et entre ces deux positions, je vous assure que ces deux positions qui sont antagonistes, qui ne permettent pas justement d'arriver à avoir ce minimum commun.
Alors, l'organisation pacifique des élections paisibles et transparentes en RDC, tel est l'objectif de ces dialogues officiellement, hein, n'est-ce pas, tel que l'a rappelé le facilitateur Edem Kodjo. Et au-delà, ça peut être quoi l'objectif ultime de ces travaux, à votre avis, professeur?
Ben donc, c'est-à-dire, en fait, les deux groupes veulent la même chose, mais le moyen d'y parvenir est différent. Les autres veulent un autre moyen, les autres veulent un autre moyen. Et d'autre part aussi, ce qu'il faut aussi souligner et insister de manière claire, c'est que dans l'état actuel des choses, tout le monde est convaincu, tout le monde est conscient qu'il n'y aura pas d'élection en 2016. Et même, je peux même m'avancer en fonction de ce que le président de la CENI a dit dernièrement, il n'y aura pas d'élection non plus en 2017. Alors s'il n'y a pas d'élection en 2016 et en 2017, même si constitutionnellement tout ça est déjà réglé avec la Cour constitutionnelle qui a réglé la situation, mais pour les rassemblements, ils ne veulent pas justement de ce schéma-là pour y arriver. Et ils veulent que l'on puisse arriver à mettre un autre cadre, et cet autre cadre pour organiser ces élections. Alors quel est l'entendement à la sortie pour ma part? Il y a deux possibilités. C'est-à-dire que lorsqu'il y a blocage à ce niveau-là, si on ne parvient pas à avoir l'inscriptivité, il y a plusieurs façons de pouvoir le procéder. C'est-à-dire que l'on peut arriver à imposer un cadre de minimum commun, c'est-à-dire sans ambiguïté, changer le mandat de la MONUSCO, impliquer la communauté internationale dans la définition d'un calendrier électoral et avec un processus clair qu'il pourrait arriver à avoir l'adhésion de tout le monde et de ce point de vue-là, on pourrait arriver à résoudre le problème. Parce que j'ai l'impression que si on tourne en rond, on va continuer à tourner en rond, le processus dure depuis plusieurs mois et on n'a pas avancé beaucoup dans les positionnements des uns et des autres, et ce n'est pas la convocation du comité préparatoire qui va arriver à résoudre le problème. Et donc nous serons toujours au même point de départ. Si la communauté internationale veut remettre les pendules à l'heure, elle n'a qu'à prendre ses responsabilités, à imposer un cadre, à imposer les cadres et l'imposer pour que l'on puisse arriver à avoir non seulement l'inclusivité, mais qu'on puisse arriver à avoir ce calendrier électoral pour permettre les élections.
Merci, honorable Didier Mwenze. Il y a une question qui vous est adressée, elle vient de Bukavu, au sud Kivu.
J'attends Guilima à partir de Bukavu, province du sud Kivu. L'ouverture aujourd'hui des travaux du comité préparatoire au dialogue inclusif par son facilitateur, pendant que les rassemblements observent une journée ville morte, nous laisse croire que ce dialogue a perdu tout son sens. Car comment peut-on commencer ces travaux à l'exclusion de cette partie importante au problème? À quelle solution veut-on vraiment aboutir? Je pense que les autres parties devraient en principe décliner l'invitation du facilitateur et analyser les requêtes du rassemblement en vue de les persuader, car faire la politique, c'est surtout savoir se faire des concessions.
Honorable Didier Mwenze.
Écoutez, Guimaté, je voudrais préciser, puisque j'ai entendu des propos tout à l'heure de mon co-débatteur, IDPiste, puisque c'est ça la terminologie, le vocable. Je crois que l'UDPiste doit savoir que même si il parle, oui, Monsieur Moubaké, il doit savoir que lorsque j'ai dit qu'il n'y a pas de date dans la Constitution, il a la Constitution avec lui, il peut la lire du début jusqu'à la fin, et à l'article auquel il se réfère, il n'y a pas la date du 19 septembre. C'est une date trouvée après calcul. Et d'ailleurs, il a fait des calculs ici.
Lorsqu'on parle des 90
jours. Oui, effectivement, il a fait des calculs par rapport à la date du 20 décembre et par rapport à la date du 19 septembre prochain. Donc, la Constitution ne donne pas de manière expresse, c'est ce que j'ai dit, ne donne pas de manière expresse une quelconque date. Et une autre précision, s'il vous plaît, avant de répondre à la question de votre auditeur de Bukavu, le groupe UDPC est allié, ce n'est pas l'affaire de Dieudonné Moïse. C'est connu de tous qu'il existe un groupe parlementaire UDPC est allié. Ces membres du
qui
Parlement.
n'est pas reconnu par les partis UDPS.
Vous pouvez le dire, mais lorsqu'ils vont à l'aéroport accueillir le président de l'UDPS, lorsqu'on le voit au tarmac pour accueillir le président de l'UDPS, lorsqu'on le voit au podium lors du meeting, à ce moment-là, ils sont groupe parlementaire. Et quand il s'agit de la présence aujourd'hui pour le lancement des travaux, ils ne sont plus groupe parlementaire. Je voudrais préciser également que la volonté de l'UDPS n'est pas la volonté du peuple congolais. La volonté de M. Étienne Tshisekedi n'est pas la volonté du peuple congolais. On doit faire de la différence. En quoi cette volonté doit être la volonté du peuple congolais? Aujourd'hui, la personne qui a la grande et la large légitimité, c'est Joseph Kabila qui a été élu en 2011. Donc on ne peut pas faire de l'amalgame. Aujourd'hui, c'est clair que l'on ne peut pas faire de l'amalgame. L'UDPS peut avoir sa volonté. Monsieur Étienne Tshisekedi peut avoir sa volonté, mais ce n'est pas la volonté de notre peuple. Et d'ailleurs, il faut préciser une chose, que nous sommes toujours à la répétition de l'histoire. Monsieur Étienne Tshisekedi, c'est toujours l'homme des rendez-vous manqués. Lorsqu'il a manqué le rendez-vous en 2002, le pays ne s'est pas arrêté. À San City, il est resté dans sa chambre climatisée, alors que l'on désignait le vice-président de la République.
Vous le saviez, mais en dépit de cela, vous lui avez fait confiance.
Oui,
à Ibiza et à Venise.
Nous lui avons fait confiance, croyant que compte tenu de son âge, compte tenu de son expérience politique, il y sera de bonne foi. Mais s'il affiche la mauvaise foi, le pays va continuer à fonctionner.
Je précise également
que la liste des libérations des prisonniers est venue de Genval, provenant du rassemblement, signé par M. Étienne Tshisekedi. Donc la liste n'a pas été inventée par le gouvernement de la République, la liste a été déposée par du groupe de panel de facilitation. Je précise également que le panel de facilitation continue à soutenir l'action d'Edem Kodjo et sa nomination. Qu'on soit de l'Union Européenne, ou de l'Union Africaine, ou de l'OIF, Organisation Internationale de la Francophonie, jusque là, ce panel soutient
M. Edem
Kodjo. Je réponds à la question de votre auditeur de Bukavu. Je crois qu'il est à distance de la ville de Kinshasa. Aujourd'hui, je dois rappeler à votre auditeur que dans la salle, il y a eu les représentants de l'opposition. Peut-être qu'il n'y a pas eu certaines figures, nous l'avons dit dans cette émission. Mais ce n'est pas dire que dans cette salle, il n'y a pas eu de personnalité de l'opposition.
Donc on ne peut pas faire de concessions par rapport au
préalable. Nous les faisons tous les jours. D'ailleurs, je voudrais préciser à l'endroit du professeur que nous n'avons pas d'agenda caché. Notre agenda est clair, c'est tenir le dialogue, formaliser la voie des élections. C'est eux, du côté de l'opposition, qui ont un agenda caché puisqu'ils parlent des dates, ils parlent des
préalables. Nous avons compris, honorable
Le 19 septembre, on soit à cette date-là, sans lever l'option du compromis politique, sans organiser les dialogues, et ils vont aller dans le chemin du chaos et de l'insurrection.
Merci, Monsieur Valentin Moubaké.
Nous serons attachés à l'article 64 de la Constitution pour interdire et empêcher à tous ceux qui voudraient prendre le pouvoir par la
force. Nous avons compris, Monsieur Valentin Moubaké, il y a une question qui vous est adressée, elle vient de Gbadolité.
André Nzamunga de Gbadolité. Les politiciens congolais doivent éviter la politique de la chaise vide afin de dissuader ce qui est caché au nom du dialogue pour trouver une solution utile pour l'intérêt du Congo.
Oui, M. Valentin Moubaké.
Bon, la politique de la chaise vide, on a déjà entendu ces phrases stéréotypées dans ce pays. Ceux qui ont pratiqué, M. André Nzamunga, la politique de la chaise remplie, ont amené le Congo où? Où est-ce que la politique de la chaise est remplie à amener le Congo? Tout à l'heure, j'ai entendu que Kabila reste le seul valable élu. Kabila n'a jamais été élu dans ce pays, ni en 2006, ni en 2011. Rappelez-vous en 2006 la guerre qui a éclaté à Kinshasa entre Jean-Pierre Bemba et Kabila. Rappelez-vous les dires du cardinal Etchaou, paix à son âme avant sa mort. De l'aveu même de Malumalu, paix à son âme. C'est Bemba qui avait gagné les élections en 2006. Et je regrette que les gens du MLC n'en fassent pas largement écho. En 2011, tous les rapports, je dis bien tous les rapports, Centre Carter, Union Européenne, Église Catholique Romaine, et c'est pas la moindre, et la Société Civile SADC, ont qualifié les résultats publiés par la CENI, la CEI, de Ngoemou Lunda, pas crédibles. Pas crédibles, ça veut dire quoi en français? On ne peut pas y croire. Ça veut dire qu'il y a quelqu'un d'autre qui a été élu.
Comment vous réagissez au propos du professeur Bob Kabamba qui estime que la position de l'opposition ainsi que celle de la majorité reflète des agendas cachés?
Non, je voudrais dire au professeur Bob Kabamba, il a dit deux choses sur lesquels je voudrais revenir. Les positions sont inconciliables. Il n'y a pas de position inconciliable en espèce ici, Monsieur Kabamba. Nous avons trois dossiers et j'aurais bien voulu que des intellectuels de ce pays donnent leur point de vue sur ces trois dossiers. Le premier dossier, c'est le dossier du mandat de Kabila. Cela, ce n'est pas nous, c'est la Constitution. Nous avions toujours dit, et je regrette que Mendes se soit tu à ce jour, que M. Kabila voulait s'éterniser au pouvoir. Il a dit que nous lui faisions un procès d'intention. Et c'est la même chose qui revient. Laissez-moi parler, s'il vous plaît. Donc, nous avons le dossier du mandat de Kabila. La Constitution dit, article 70, alinéa 1er, le président de la République est élu pour un mandat de 5 ans renouvelable une seule fois. Point. Matière verrouillée, d'ailleurs, dans l'article 220 de la Constitution.
Et le deuxième dossier ?
Attendez. Ce dossier-là veut dire quoi ? Le mandat de M. Kabila n'est pas lié au processus électoral. C'est ça la ruse du PPRD, M. Kabila. Ils veulent lier l'équation personnelle de M. Kabila à l'avenir du Congo, au sort du Congo, au futur du Congo, le processus électoral.
Et vous ne pensez pas que ces discours auraient son sens
dans le dialogue, vous l'avez dit.
Un impact réel dans le dialogue.
C'est depuis combien de mois nous disons ça ? On nous traitait de faire un procès d'intention à Kabila. Où sommes-nous aujourd'hui ? Où sommes-nous aujourd'hui ? Donc nous ne pouvons pas tomber dans ce piège-là, nous ne sommes pas des naïfs. Et c'est comme ça qu'ils utilisent Kodjo, justement, pour faire avaliser ça. Donc, le premier dossier, c'est le mandat de Kabila. Le 19 décembre, c'est terminé. Ça, c'est un dossier réglé par la Constitution. Et la Cour constitutionnelle à laquelle le professeur Boba a fait allusion, c'est regrettable. La Cour constitutionnelle n'a pas mandat de modifier la Constitution. Elle ne peut que interpréter des articles. Quand cette Cour constitutionnelle dit que Kabila peut rester, même s'il n'y a pas élection, jusqu'au jour où il y aura élection, c'est un nouveau mandat. Et il le tire d'où ? Et c'est quelle durée ? Il la tire d'où ? Et ça modifie même l'article 73 de la Constitution qui dit le scrutin présidentiel est convoqué 90 jours avant. C'est pour éviter ce genre de velléité. Alors, voilà le deuxième dossier. C'est-à-dire, Kabila part le 20 décembre, au plus tard, et s'ouvre une période transitoire. Parce que le pays ne peut pas rester comme ça. Cette période va définir les objectifs à assigner à cette période.
Une période de transitoire, pas des élections. Vous ne parlez pas des élections, pourquoi ?
Non, mais je vais y arriver, c'est le troisième dossier. Je suis en train de vous dire qu'il y a trois dossiers distincts. Voilà comment on a embrouillé la mentalité. Je répète, le premier dossier, c'est le mandat de Kabila, qui est réglé par la Constitution, on n'y revient pas. Le 19 décembre, tout intellectuel digne de son nom doit respecter la Constitution. Deuxième dossier, après le 20 décembre, le pays ne va pas quand même rester comme ça. Eh bien, les Congolais, les intelligences congolaises vont se mettre ensemble pour déterminer cette période-là, la durée de cette période, les institutions de cette période, merci, les objectifs assignés à cette période. Voilà le deuxième dossier. Et qui n'a rien à voir avec Kabila. Précisons-le. Le troisième et dernier dossier, c'est le futur du Congo, le processus électoral.
Merci, on a
et
pas,
là,
on a pas, on a
encore
compris,
une
on a pas
fois,
fait temps.
Les gens sont tombés dans le piège de Kabila
merci,
et de
monsieur
sa majorité.
Mbappé, merci, professeur Bob Kabamba, il y a une question qui vous adressait, elle vient de Dungu.
Crispin Aribou, territoire de Dungu, province de Haut-Uele. Lorsque le facilitateur déclare que le dialogue qu'il a amorcé vise le respect de la Constitution et de la résolution VD67, je crois qu'il y aurait double contradiction. Primo, celle des faits. Un dialogue avec risque d'absence d'acteurs de choix serait-il inclusif tel que voulu par le Conseil des Nations Unies? Secundo, celle verbale. Comment peut-on obéir à la Constitution et aux résolutions VD77 sans la tenue exigée des élections en 2016 et par conséquent, le dialogue aurait pour but trouver un modus vivendi.
Professeur Bob Kabamba.
Merci beaucoup. Dans un premier temps, je voudrais rectifier quelque chose. Donc, je n'ai pas parlé qu'il y avait des agendas cachés. La preuve, dans la première fois, c'est bien de donner la quintessence de ce que j'ai expliqué tout à l'heure en disant que eux poursuivent comme objectif. Ce sont des objectifs qu'ils poursuivent, ce n'est pas un agenda caché parce qu'ils l'ont dit, ils l'ont répété. Au niveau de la majorité aussi, ce n'est pas un agenda caché, c'est des objectifs qui sont répétés à chaque fois et même l'honorable vient de l'expliquer. Alors, pour répondre à l'auditeur de manière très claire, c'est-à-dire que lorsque le facilitateur
s'inscrit dans le cadre de la résolution 2077. Effectivement, dans la résolution, on parle chaque fois des délais constitutionnels. Là encore, c'est tout un débat de juristes. On ne va pas devenir sur leur débat de juristes en disant, oui, on parle des délais constitutionnels. Quand il s'agit de délais constitutionnels, il y a toujours deux délais. Il y a délais d'ordre et des délais de rigueur. C'est-à-dire que les délais de rigueur et les délais d'ordre sont des délais qui sont inscrits généralement et qui ne produisent pas des effets nécessairement si le délai n'est pas respecté. Et donc la même chose que lorsque l'on dit de la Constitution, c'est la même chose. C'est la même chose, c'est-à-dire lorsque l'on parle de pouvoir arriver à organiser des élections, si on n'organise pas les élections, ce n'est pas la première fois dans ce pays qu'on n'a pas organisé les élections dans les délais. En 2011, on n'a pas organisé les élections dans les délais. En 2006, on n'a pas organisé les élections. Premier tour et second tour, on ne les a pas non plus organisés par les délais. C'est ce qu'on appelle le délai de rigueur. C'est pas le délai d'ordre. Donc, clairement, revenir au comité préparatoire, c'est-à-dire que les contribuables, les points de vue, je le répète et je le dis à M. Moubaké, que de mon point de vue, les deux points de vue, la position du rassemblement et la position de la majorité, sont inconciliables pour la bonne et simple raison que les enjeux et les objectifs du rassemblement sont différents des enjeux et des objectifs de la majorité. Et le facilitateur n'arrive pas à faire un lien entre ces deux-là, malheureusement.
Professeur. C'est pour
ça que nous avons blocage. Et je ne pense pas que faire du juridisme à ce niveau va aider à débloquer la situation. C'est plutôt
professeur.
Une stratégie de négociation politique pour y arriver.
Merci. Professeur, oui. Qu'est-ce qu'il faut pour sauver les processus du dialogue et au-delà les processus électoraux? Vous avez proposé que la communauté internationale puisse imposer un cadre et changer le mandat de la MONUSCO. Est-ce que vous pouvez expliciter votre pensée? Ça sera votre conclusion par rapport à la fin de l'émission.
Nous avons tous les outils sont là. On a tous les outils, on a tous les cadres qui existent, les lois, etc. qui existent. Tout ce qui manque, c'est un consensus politique entre d'une part l'opposition, une partie de l'opposition et la majorité pour se mettre d'accord comment on va procéder, comment on va se mettre d'accord pour faire un calendrier. C'est ça l'objectif. Alors, quand s'il n'y arrive pas, c'est très facile de dire, oui, la communauté internationale a suffisamment d'experts pour pouvoir voir par rapport aux données qui sont disponibles actuellement, de dire, ben voilà, nous allons prendre une résolution, et cette résolution va fixer clairement le cadre dans lequel, comment on va organiser ces élections, le calendrier électoral, proposer un financement, puisque tous les standards sont déjà connus, les travaux ont déjà été faits, proposer un mode de financement sur lequel la communauté internationale elle-même pourrait participer pour pouvoir arriver à l'organiser. Changer le mandat de la MONUSCO, c'est-à-dire, clairement, ça veut dire que la MONUSCO soit non plus un appui comme elle l'est actuellement, qu'elle soit aussi partie prenante dans l'organisation des élections, notamment comme on a connu en 2006. En 2006, la MONUSCO, donc la MONUC de l'époque, était partie prenante dans l'organisation des élections. Et de toute façon, là, on a un cadre qui est déjà fixé et qui est imposé par la communauté internationale à travers une résolution. De toute façon, on peut s'en sortir aussi bien du côté du rassemblement
Merci.
Que du côté de la majorité.
Merci, honorable Didier Mosé. Que faut-il pour sauver les processus de dialogue et les processus électoraux? Ça sera votre conclusion. Vous avez suivi la proposition du professeur Bob Kabamba qui demande qu'on puisse imposer un cadre et changer le mandat de la MONUSCO.
Guillemette, vous comprenez que vers la fin de l'émission, finalement, les masques sont tombés. M. Valentin a fait un aveu terrible. Vous avez suivi. C'est pour ça que nous parlons qu'ils ont un agenda caché.
C'est quoi
ils
l'aveu?
Parlent
c'est
déjà
quoi l'aveu?
D'une transition.
C'est quoi l'aveu?
Non,
c'est
pas, pas. L'aveu, c'est qu'ils parlent déjà d'une transition. Ils disent clairement, le 19 décembre 2016, Joseph Kabila part du pouvoir, il quitte le pouvoir.
Il a parlé des hypothèses.
Oui, non, pas des hypothèses. C'est ça l'agenda caché. Il a dit clairement. Il a parlé des mandats. Nous, on n'a jamais changé. Le mandat du chef de l'État actuel est encore constitutionnel et légal. Mais l'agenda caché, c'est ce que nous disons là. Mais après le 20, le ciel ne va pas tomber sur
la tête des Congolais.
Et la solution, ça sera quoi? Puisqu'il faut poser la question à ceux qui envisagent le départ de Joseph Kabila à la date du 19 décembre.
Merci.
Qui va être président de la République.
Merci, M. Valentin Moubaké. C'est quoi la solution?
Merci bien, M. Moubaké.
Ça ne passera pas.
Nous continuons.
Nous avons compris. M. Moubaké, c'est quoi la solution?
Est-ce qu'il peut être discipliné pour se taire?
S'il vous plaît, M. Moindé.
Peut-il se taire?
Vous avez parlé, on vous a écouté. M. Moubaké, c'est quoi la solution? Nous devons sauver la procédure de
Il n'y a pas de position inconciliable. La Constitution a suprématie sur n'importe quelle position, M. Kabamba Bob. La Constitution exige que la fin du mandat de M. Kabila
à la fin de son mandat, il n'est pas de troisième mandat. Il n'aura pas de troisième mandat.
Et c'est quoi la solution?
Je répète, la solution, Kabila s'en va.
Merci, merci, c'est la fin de cette émission. Merci à Sylvain Matundu qui est à la technique. Merci à toute l'équipe Dialogue en Congolais qui écoute Berry Franklin Terre à Koumakimo et bien à préparer l'émission. Sous la supervision de Pelle Kipé Lamondo, merci, merci, c'est la fin de cette émission. Merci et bon suite de programme sur Radio Kabila.